Je suis Yannick Jolin. Et depuis toujours, j'ai aimé malaxer cette matière ronde et chaude des contes, des mythologies, des légendes sacrées. Depuis l'origine, l'homme a besoin de donner un sens à sa vie. Alors il a raconté le mystère, l'infini. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas de la poésie, c'est autre chose. Une matière ronde qui vibre à côté du monde carré des apparences.
Pascal Paradou.
Sur les routes, on the road, pendant tout le mois de juillet, Yannick Jolin va raconter des histoires, les grandes, les petites, les siennes, et celles d'une langue, d'une culture qui s'enracine du côté du département des Deux-Sèvres, en Aquitaine, dans un village de 366 habitants, dénommé Pougne-Hérisson. Bonjour Yannick Jolin.
Bonjour.
À quoi ressemble Pougne-Hérisson? J'ai longtemps cru que c'était un nom inventé, que c'était un lieu de fiction.
Absolument pas, c'est le contraire, c'est le mariage forcé de deux communes en 1789, Pougne d'un côté, Hérisson de l'autre. Au niveau symbolique, c'est plutôt l'explication de la dualité sur la Terre. Quand Dieu se projette dans sa création, il fait bien sûr le jour d'un côté, la nuit de l'autre, l'homme, la femme, Pougne d'un côté, Hérisson de l'autre.
Donc Dieu s'est mêlé à la création de Pougne-Hérisson.
Absolument, il est même, oui, ça a été le début de beaucoup de choses, parce que vous savez que toutes les histoires du monde sont parties de Pougne-Hérisson au moment de ce qu'on appelle le Big Bang mythologique.
Mais non, je ne le savais pas.
Eh bien, vous savez, Pascal, vous devriez m'inviter plus souvent.
Alors, vous avez surnommé en effet ce petit village qui ressemble à quoi? Un petit village?
Oui.
Il y a quoi? Il y a un bar, une église?
Non, il n'y a plus.
Il y a plus de bar.
Si, il y a le bar maintenant au Nombril du Monde, puisque c'est le jardin du Nombril du Monde est un jardin public avec un bar associatif. Et c'est un endroit de cohésion sociale, parce que ces endroits ont été, et si on en arrive là aujourd'hui, en France, au niveau politique, c'est aussi parce que ces lieux-là ont été laissés à l'arrière du monde.
Alors, vous avez surnommé ce village le Nombril du Monde.
C'est pas surnommé, c'est que c'est le nombril de toutes les histoires du monde à cause de en fait, toutes les semences d'histoires qui sont racontées dans le monde entier aujourd'hui, dans tous les moindres recoins d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, la poussière de ça part de Pougne-Hérisson, ce petit village de Plouc des Deux-Sèvres.
Mais ça, c'est vous qui le dites.
On a les preuves.
Ah bon, dites-moi.
On a trouvé les entrées de la mine d'histoire qui a été exploitée jusqu'au Moyen-Âge et qui a été bouchée par les Anglais. Après, si les Anglais ont de l'imaginaire aujourd'hui, c'est à cause de Pougne-Hérisson. Il n'y aurait jamais eu Tolkien, il n'y aurait jamais eu Harry Potter s'il n'y avait pas eu Pougne-Hérisson au départ.
En tout cas, il n'y aurait pas eu Yannick Jolin.
Ça, je ne sais pas, j'ai dû arriver là pour révéler quelque chose. Vous savez, on a toujours une mission qui nous échappe.
Mais alors, pourquoi vous dites le nombril ou pourquoi ça s'appelle le nombril et non pas le centre?
Parce que le centre, c'est d'une manière assez vulgaire, c'est très géographique. C'est Bussière-Lichamps, donc c'est la mine Noirlac, si vous voulez, en France. Mais le nombril du monde, nous, on est le siège de l'Association mondiale des nombrils du monde. C'est-à-dire qu'on lit aussi bien Rapa Nui, l'île de Pâques, Ayers Rocks en Australie, et on leur envoie une invitation tous les ans, au 1er avril, pour la Journée mondiale des nombrils du monde, qu'on a tenté de faire inscrire au patrimoine immatériel de l'humanité. On n'a pas été encore accepté.
Mais ça pourrait venir. Vous n'êtes pas né là-bas?
Non, je suis un réfugié politique là-bas.
Et vous avez découvert ce village, ce nombril du monde, comment?
Un soir de beuverie, où j'ai été appelé sans doute par des voix qui m'ont amené dans cet endroit où, bien sûr, il y avait des éléments bizarres, des châteaux effondrés, des trous, des chirons de granit partout. On aurait dit un centre d'entraînement pour géants qui aurait été laissé à l'abandon. Et c'est là qu'on a trouvé une des premiers éléments écrits parlant de cette légende du nombril du monde.
Alors vous dites que vous êtes un immigré, Yannick Jolin. Plus souvent, dites-vous que vous êtes un conteur, ou alors un raconteur, ou alors un diseur. Quel est le mot que vous aimez?
Parce qu'il faut des fonctions sociales. Vous savez bien, on est un monde qui a besoin de classification.
Oui, mais vous, vous dites quoi?
Moi, j'ai de la goule. Moi, il y a de la goule, voilà. Voilà ce qu'il y a. Mon père disait d'ailleurs, désespéré, que je ne savais pas faire grand-chose à part la goule, à part parler, quoi. J'ai essayé d'utiliser ça, mais vous, c'est pareil.
Oui, un peu. Moins. Ouais. Moins. Oh, beaucoup moins.
Ne faites pas le l'humble.
Alors, en tout cas, depuis 30 ans, tous les deux ans, les années impaires, vous organisez à Pougne-Hérisson un festival des arts de la parole. Et alors, j'ai cru comprendre que la benaiserie est essentielle dans ce festival.
Oui, la benaiserie, c'est le mot qui vient d'être ajouté au Larousse, mais qui n'existait pas avant. Avant, comme tout bon français, vous savez bien, pour tous ceux qui nous écoutent, ils savent, les Français, c'est des râleurs permanents, ça gueule, c'est méchant, c'est affreux. Parce qu'on n'avait que le mot malaise. Et en rajoutant le mot benaise, qui est l'opposé de ça, j'espère qu'on va influer dans le sens d'une France plus positive.
Donc il va être plus joyeuse et plus conviviale. Oui, c'est ça la benaiserie.
Et quand on arrive à Paris, on se dit que la convivialité a de beaux jours devant elle.
Oh bah quand même, ici, ça va bien, non?
D'ici, pour l'instant, c'est formidable, bon, c'est une enclave.
C'est du Picard, la benaiserie, ou c'est votre invention?
Ah non, c'est dans tout le nord de la France, l'ouest de la France, donc c'est dans les parlers régionales, c'est resté très fort, quoi.
Vous dites parler régional, pas patois, hein. C'est péjoratif, patois.
Patois, l'abbé Grégoire a défini ça en 1794, en mettant d'un côté ceux qui portaient le patois, qui étaient la plouquerie définitive, les réactionnaires du monde, et les porteurs du français, qui étaient la valeur universelle. Donc, on voit bien, on a porté ça aussi dans la colonisation, hein, cette idée que sans le français, point de valeur universelle.
Donc vous voulez rééquilibrer ce rapport de force très déséquilibré?
Je pense que les langues utiles ont une fonction formidable de communication. J'utilise le français avec une joie non feinte, mais que ces langues régionales ont des connaissances d'un rapport à la nature, d'un rapport à la biodiversité, d'un rapport au savoir-faire local qui est indépassable. Et quand on perd ces langues-là, on perd souvent la connaissance d'un territoire. Et je pense qu'en France, par exemple, peut-être qu'on est le résultat d'un ethnocide, c'est-à-dire d'une perte de rapport à la terre, et que peut-être la paysannerie française, si elle en est dans cet état-là, c'est aussi parce qu'elle a perdu ses langues.
Et d'ailleurs, vous dites cultiver les mots et jardiner votre langue.
C'est ce que disait Joachim du Bellay, quand il disait, dans Défense et illustration de la langue française, quand il disait que le français n'avait pas été assez bien jardiné, qu'il ne pouvait pas remplacer encore le latin, parce qu'il fallait importer plus de grec, importer plus de latin, pour arriver à lui donner une épaisseur mondiale.
Donc vous voulez jardiner le Picard?
Le patois, le poids de vin de chez moi.
Le poids de vin de chez vous, ouais. Pour remplacer le français?
Ah non!
Ah, c'est pas le grand remplacement.
Non, ni le repli sur soi, parce que s'il y a une chose qui m'effraie absolument, c'est le régionalisme nationaliste, vous savez, qui essaie de revendiquer une espèce d'authenticité locale. Non, je crois qu'au contraire, en s'ajustant avec son identité profonde, on peut s'ouvrir aux autres, pas quand on est dans le repli.
Yannick Jolin, vous allez nous raconter le programme de votre été, la célébration de la Flemme Moulin Plouc et la tournée de Saint-Roch. Mais après, Rosé, chanteuse québécoise sur la playlist de RFI, elle sort un nouvel album, Virer nos vies, avec ce titre, L'habitude.
Au pire moment, tu perds ta chance. Accroché sur la caméra, revis l'été. On dit où ce qu'on voudra, la ligne est fine. Ouais. Si c'est pas toi, j'ai pas envie de personne. Si ça te tente, on peut se voir à chaque mois, à chaque fois que ça t'adonne. J'essaye, je te jure, mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur de te perdre, mais j'ai pas encore l'habitude. Je pense pas encore que je t'aime, mais je veux pas faire la vie dure. Faut se parler comme ça, te voulu voir, on fait des plans que pour toi. Oh non, mais j'ai pas encore l'habitude. Facile d'être seul si t'es jamais manqué d'amour. Si t'es tard, cause dès que ça dérape, que tu veux partir à zéro. C'est pas grave, c'est fini, mets-toi là, j'irai pas faire le tour de l'île pour me faire crisser le 7 hiver. Non, j'ai des missions, mais hey, à côté sur le mur, en chaîne de fusil, pas le mal. Pourrais m'y faire, c'est sûr, mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur de te perdre, mais j'ai pas encore l'habitude. Je pense pas encore que je t'aime, mais je veux pas faire la vie dure. Arrête, s'il faut se parler comme ça, te voulu voir, on fait des plans que pour toi.
Rosé sur RFI, chanteuse québécoise, et ce n'est pas ce petit vin clair que l'on boit à la terrasse des cafés parisiens. On boit quoi d'ailleurs à Pougnérisson pendant votre festival, Yannick Jolin? Du rosé, de la bière, c'est
alors,
quoi
de
l'alcool
la bière,
local?
Vous avez, il y a de plus en plus que de brasseries locales aussi. En vin, vous savez que ça remonte aussi. On a un peu de vin dans le Poitou, c'est pas le meilleur du monde. On en a en Vendée aussi à côté, du très bon.
Un peu tout, quoi.
Un peu tout, ouais. Nous, on a développé beaucoup de moyens de transport, vous savez, pour arriver jusqu'au nombril du monde, parce que les routes sont petites, très étroites. Donc, pour arriver, c'est ce qu'on appelle des demi-routes chez nous.
D'accord. Et vous avez un programme alléchant pour
La flemme olympique.
Ouais, pour la flamme olympique. La flemme, on a bien compris, ouais, que c'est la flemme et non pas la flamme olympique. C'est quoi cette affaire?
Eh ben, c'est un espèce de contrepoint et en même temps un apport aux Jeux Olympiques qui vont se passer dans cette belle ville de Paris. Nous, dans cette capitale mondiale aussi qui est le nombril du monde, on va faire cette flemme olympique, c'est-à-dire une célébration de ce qui peut s'apparenter à un retour à soi-même. Hein, c'est prendre le temps, la benaiserie justement, voir des spectacles, mais pas forcer des petites jauges. On est 2000 par jour dans un village où il y a des scènes, dans une stabulation, ça sent encore un peu la bouse, mais une bonne bouse avec des bons produits, donc c'est pas du tout pareil que la bouse industrielle. On est dans une scène de plein air, on est dans des scènes de plein air, il y a une ambiance, c'est une expérience à vivre, et avec plein de jeux liés à la lenteur, bien sûr.
Oui, ça sent plus la sieste que la performance. Hein, la flemme ou l'implouk.
Oui, hein, on est un peu de ce temps-là.
Et alors, plouk, pourquoi plouk? Parce que c'est très péjoratif.
Justement.
Ça sent quand même le conflit entre la ville et la campagne.
Oui, mais on avait déjà fait, vous savez, en 2010, on avait fait « La campagne, c'est pourri, vivement Golden City ». On avait essayé de transformer Pougnérisson en mégalopole, en se disant que c'était la seule possibilité d'avenir dans le monde qui s'urbanise. Là, on aggrave ton cas, c'est-à-dire plouk, puisque c'est péjoratif, faisant un joyau.
Donc et nous, vous assumez.
La flemme olympique, au contraire, on est chez les ploucs. Plouc, ça veut dire le village, hein, en breton, hein, le plou. Donc, on assume absolument ça et on invite les gens qui ont envie de cette lenteur, de cette non-concentration, à venir chez nous.
Mais est-ce que parler plouc, parler poids de vin, c'est parler plouc? Est-ce que c'est forcément être plouc ou il y a eu un retournement grâce à vous et avec cet engouement pour les langues régionales depuis quelques années?
Oh, l'engouement, il est encore très loin, vous savez, par chez nous. Hein. C'est-à-dire que l'engouement, il est dans certains intellectuels qui en parlent autour, de certains militants ou de gens impliqués dedans comme moi. Mais sur le terrain, la dévalorisation de soi, qui a été la même qu'en Afrique sur les langues vernaculaires, qu'elle a été d'une violence extrême, l'humiliation permanente quand un gamin parlait en patois a fait que les gens ont intégré ce fait que ces langues n'ont aucune valeur. Et tant qu'on ne nettoiera pas ces disques durs intérieurs pour redonner de la valeur à ces mots, à ces langues, comme si des mots pouvaient être moins beaux que d'autres. Non, il y a des mots formidables dans ces langues-là.
Vous avez connu cette humiliation?
Oui.
À l'école?
Oui, moi, quand je suis arrivé en sixième. Parce que tout mon cursus a été fait. Il y a un faille de Mouettet de Vendée. Et il y a toujours tout pareil. Il n'y avait pas rien qui parlait autrement. Il y a toujours une gorouette de drôle. Et tout le monde parlait de même. Et quand il s'est arrivé au collège, là, ça a été violent.
Mais ça donne le sourire de vous entendre. Et ça vous donne le sourire de parler Poitvin.
On n'est pas le même André de moi qui parle. Quand il juge de même, on est dans une autre André. Et moi, c'était une langue qui me rit dans le ventre. Il crée que la langue maternelle, elle est liée à tout ce que l'a de plus profond, de bien dans nos intérieurs.
Ça aide à se détrister, dites-vous. C'est quand même magnifique, ce mot-là, se détrister. Alors, je ne sais pas ce que vous raconterez pour cette flemme olympique cet été à Pougnérisson, mais dans votre dernier spectacle en date, vous revisitez les grandes histoires de trois religions du livre, dont celle de Moïse, au commencement, était...
Moïse, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Un bâton. Bon, garoche le bâton au bas. Qu'est-ce que devient? Un serpent. Rattrape-le, un bâton. Serpent, bâton. Serpent, bâton. Serpent, bâton, bâton, serpent. Ah, tu vois? Deuxième affaire, si nous voulons pas te croire, tu mets ta main dans ta dorne. Tu la ressors, on dirait que t'as la lèpre. Tu la remets, tu la ressors, et guéri! Troisième affaire, tu prends un seau, tu le remplis au Nil, tu le garoches au bas, on dirait que c'est du sang, d'accord? Révision, serpent, bâton, serpent, bâton, serpent, bâton, main, lèpre, guéri, seau, sang, d'accord? Oui, 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 oui. Mais... Il veut pas y aller. Pas parce qu'il y a la goule, car...
cacache, oui, et la langue qui parle.
Tu m'énerves! D'accord, tu parles mal, mais ton frère Aaron parle très bien. Alors je t'en parlerai à toi. Toi, tu diras à Aaron, et Aaron parlera au peuple. Et il te fait la prophétie que justement parce que tu parles mal, justement parce que t'es pas un bon parleur, justement parce que t'es pas un communicant, justement parce que t'es pas un storyteller, ta parole sera entendue jusqu'à la fin du temps.
Ça vous dit quelque chose, quand même?
Alors, Moïse avait un défaut d'élocution, c'est avéré dans les textes, et Aaron était son interprète. Mais de là, Yannick Jolin a pensé qu'il était poitevin, qu'il parlait poitevin, je trouve ça assez gonflé.
Ben, non, parce que je parle d'un souvenir d'enfance où c'était une troupe de mon village natal qui avait repris cette vie de Moïse bègue en poitevin.
De toute façon, c'est le propre des conteurs que d'adapter.
Absolument.
De réajuster, finalement.
Et de faire des beaux mensonges, des mensonges qui n'écrabouillent pas les gens, mais qui les aident à grandir.
Alors, c'est un extrait d'un de vos spectacles, « Comment vider la mer ?»
Comme. Attention, je ne donne pas la méthode. Oula, oulala, oulala.
« Comme vider la mer avec une cuillère », nuance importante. C'est une expression poitevine ? Vider la mer avec une cuillère.
Non, c'est une histoire de ma mère qui était très religieuse, très catho, qui est toujours, et qui me parlait toujours de cet enfant, qui est, d'une histoire très, très. Où un gamin qui essayait de vider la mer avec une cuillère et devant le mystère du monde. Il y avait une espèce de rapport entre les deux.
Mais ouais. Dans ce spectacle, vous parlez de religion, beaucoup de religion, ce qui est assez gonflé quand même, surtout aujourd'hui en France où on se bat pour ces questions-là.
Surtout que ce spectacle a été créé 3 jours après les événements de Charlie et que c'était vraiment dans l'air du temps. Et que, oui, pour moi, c'était de dire, attendez, ce que vous prétendez comme vérité et qui vous donne le droit de tuer ou de mépriser l'autre, c'est une vérité. Et tous les textes nous racontent qu'il y a plein de versions des histoires, que c'est la même matière que le conte, que toutes ces histoires-là, ça dépend de la vision. Quand on empoigne une version et qu'on en fait une vérité définitive et ultime, là, on devient dangereux pour la planète même tout entière.
Que vous soyez entendu. Donc, les histoires adoucissent les mœurs, a priori. La musique aussi. Et là est votre second projet pour cet été, Yannick Jolin. Une tournée mondiale locale. Donc, je crois que c'est un oxymore. On est d'accord?
Oui. Ça fait
comment ça peut être local et mondial?
Ben parce que nous, à Pougnacy, on a toujours eu le sens de la mégalomanie dérisoire. C'est-à-dire de se dire, puisqu'on nous prend justement pour des riens, montrons que nous sommes tout. Et on verra par la suite. Et donc, voilà. Mondial local, c'est parce qu'on pense que cette tournée, elle a une incidence sur le monde entier. Et pourtant, on l'a fait localement. Voilà.
En Nouvelle-Aquitaine.
On commence en Vendée. On part en Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime. On fait 4 départements.
Ça fait de la route, quand
avec
même,
un tracteur. Oui, mais c'est un tracteur qui tire notre scène. Et donc, on va dans des villages qui n'ont pas souvent eu de gros concerts de rock comme ça. Et on y fait des rencontres autour du patrimoine immatériel à 10h30. Chaque fois, on essaie de mettre en valeur, aider les gens à regarder à nouveau les richesses de leur territoire.
Donc, en tracteur, avec un projet qui s'appelle Saint-Roch, mais Saint comme on dit Saint-Pierre ou Saint-Paul.
Oui.
Parce que le rock est saint.
Ben parce que c'est un projet qui a été fait au moment où on était à la sortie du Covid et que Saint-Roch, c'était le saint qui était imploré pour guérir les populations. Et on se disait que la musique adoucit les mœurs, mais elle peut peut-être aussi guérir une partie de leurs intérieurs. Et en le faisant dans cette langue-là, qui est une langue encore neuve, parce que mon patois, c'est la chance de cette langue, c'est qu'elle est encore dans sa gangue de terre. Elle n'a pas été abîmée, souillée par des sens multiples. Les mots sont encore dans leur proximité de la terre. Et ça, j'aime.
Et vous avez donc sorti un album, en plus de ce spectacle en tracteur, pour faire la fête à Pougne, à Paris ou à Bamako.
Faire la fight. Danser comme do bite. Double les étel. Faire la fight. Double les étels. Dans les arrondelles de la parentèle. Faire la fight. Faire la fight.
Yannick Jolin, vous êtes un peu Santiago et blouson de cuir ?
Non, je
n'ai pas regardé là sous la table pour savoir comment.
Non, je vais plutôt cravate.
Ah ouais ?
Oui, parce que comme on est en tracteur, puis un très beau tracteur classe, un beau tracteur, ouais, donc on va plutôt honorer le tracteur en mettant la cravate.
Faire la fête, c'est pas fête d'ailleurs. On dit
la fight.
La fight, A-E.
Ah ouais, A-E, on l'écrit A-E dans en graphie normalisée.
Mais pourquoi on dit fight ? Pourquoi
parce qu'ils disent de même, a fight.
Ah ouais, donc ça suffit.
Ouais, bon, une bite, tous les il y a plein de choses qui sont en ai en français, ai accent circonflexe, qui se transforment en ai chez nous.
Donc ça, c'est la première leçon de Poitevin. Mmh. Votre album s'appelle Dans les arentelles.
Ça, on vient directement de latin, aranea tela. Au lieu de faire toile d'araignée, qui est une aberration totale en français, ça n'a aucun sens. L'arentelle, c'est infiniment plus beau en plus.
Donc vous avez opté pour le latin.
Mais bien sûr, j'ai fait des propositions à l'Académie française qui n'ont jamais été retenues. Par exemple, le « i » dans notre langue veut dire « je » et « nous ». C'est formidable. Ça rejoint l'individu qui prend conscience de lui et le collectif. À la place du « je » et de « nous », on ferait des économies de graphie. Et en plus, on aurait un sens du collectif qui a besoin d'être réinventé aujourd'hui. Je ne voudrais pas dire.
Pourquoi ne pas être candidat à l'Académie française ? Il y a de la place, je crois, en ce moment.
Ils sont vieux. Ils sont vieux.
Ça va nous arriver à tous.
Non, c'est un état d'esprit. Comme dirait Clint Eastwood, je n'ai jamais laissé la vieillesse entrer.
Dans la présentation de votre album, Yannick Jolin, vous dites « Une langue est d'abord une musique qui accompagne nos vies ». Donc c'est très cohérent ce projet de Saint-Roch. Ouais. Vous êtes conteur et rocker.
Mais parce que c'est à cause des diphtongues, justement, c'est une langue qui sonne bien mieux que le français, parce qu'elle a plein de diphtongues, donc les bites, les fights, justement, toutes ces sonorités qui font qu'il y a quelque chose de naturellement rock.
Et on est dans la grande tradition de la littérature orale, du conte, de la Aide, où musique et texte étaient indissociables.
Absolument. Et en plus, la chanson permet aussi à la fois d'avoir de l'amplitude, c'est-à-dire ça donne un concert de rock vraiment rock, et en même temps des temps de parole où parler des langues, en parlant de la mienne, je parle aussi des 6000 langues qui sont encore parlées sur la Terre et qui seront à 50% disparues dans une génération. Donc c'est aussi pour moi un moyen de parler local et mondial.
Et ça fait virouner le monde. Mmh. Dites-vous virouner ?
Virouner. Virouner, c'est tourner comme ça. Une virouner, c'est... Ouais, c'est... En français, c'est ça. C'est
valser.
Juste, ouais, c'est quand tu virounes. Quand tu virounes, tu valses.
Allez,
ouais.
On va virouner avec Lucie Bouteloup maintenant. Alors,
oh non.
Mais si.
Rappelez-vous d'après qu'un Richaune.
Mais vous êtes extrêmement désagréable.
Mais attendez, attendez, il faut que je lance Lucie Bouteloup. Donc, il faut que je dise plein de choses. Bref, c'est la puce. Elle a déjà ri. Vous la reconnaissez.
La puce.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal, au revoir Yannick.
sérieusement Lucie, vous avez choisi aujourd'hui une expression dans le vocabulaire des sapeurs-pompiers.
Des sapeurs-pompiers, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, bon nombre d'ados à l'approche des examens de fin d'année diront qu'ils sont en PLS. Être en PLS, donc est-ce que vous savez ce que veut dire cet acronyme ?
Vaguement.
C'est-à-dire
j'ai fait mon stage de secouriste.
Ah bon, vous en tirez beaucoup mieux que quelques-uns. On va voir ça tout de suite. Alors, être en PLS, la lexicographe Géraldine Moinard aux éditions du Robert va nous donner des explications. Mais d'abord, les explications des quadras.
Être en position c'est trop dur à dire, longitudinale de sécurité.
Je suis crevée, on ne peut plus rien faire de moi, HS quoi.
Tu fais un malaise quoi, t'es en PLS.
Position longitudinale.
Tu réagir à quelque chose, se dire, être choquée peut-être aussi, ça m'a mis en PLS.
C'est un peu comme claquer au sol, ça se rejoint PLS et claquer au sol.
Plaisir, loi, super. Un plaisir, loi et super. C'est ce qu'il y a de mieux.
La puce à l'oreille.
Alors, Géraldine Moinard, une réaction aux propositions de ces quadraquinquas. Manifestement, ils ont loupé les cours de sauvetage.
Ah oui, les cours de secourisme. Alors, la position longitudinale de sécurité, ça complique un petit peu la vie, puisque PLS, ça vient de position latérale de sécurité. C'est une position dans laquelle on place une personne inconsciente en attendant l'arrivée des secours. Donc, la personne est allongée sur le côté, la jambe qui n'est pas au sol est pliée à angle droit, la bouche ouverte, la tête alignée dans l'axe du dos, et ça lui permet de mieux respirer.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression « être en PLS » ?
Alors, du coup, l'expression a été reprise par les jeunes. C'est une expression familière qui signifie « ne plus en pouvoir se sentir mal », au sens autant physique que parfois moral. Et donc, quelqu'un qui est en PLS, il y a cette idée d'être au bord du malaise. C'est une exagération. Hein. Voilà, comme quand on dit, on a entendu « je suis au bout de ma vie » ou « je suis mort », évidemment, on exagère cette idée d'être à bout de force.
Alors, des expressions avec des acronymes, il y en a pas mal hein, qui sont rentrées dans le langage courant. Je pense par exemple à LOL ou à MDR pour mort de rire ou PTDR pour péter de rire, OKLM ou KO. Ça fait longtemps qu'on utilise des expressions de ce type dans la langue française.
Oui, ça, c'est plutôt des expressions assez récentes, sauf KO. Mais c'est vrai que c'est très pratique. Hein. Voilà, c'est court, c'est efficace et puis c'est un peu cryptique aussi. Et ça, c'est... En général, ça plaît beaucoup aux ados, utiliser des expressions un petit peu cryptiques qu'on ne peut pas décoder tout de suite.
Et ça vient d'où, des SMS en fait, des téléphones ?
PLS, je pense que c'est un peu trop récent pour venir des SMS, autant OKLM, LOL, oui, c'est apparu avec les SMS. PLS, c'est juste une reprise plaisante, on avait un peu épuisé être au bout de sa vie, être mort, et puis la langue se renouvelle, les ados cherchent d'autres façons de le dire. Oui, ils vont prendre quelque chose d'un peu similaire et puis réutiliser cette idée de malaise.
Ça fait combien de temps qu'elle est utilisée, cette expression à peu près ?
Ça fait une dizaine d'années.
Une dizaine d'années. Elle est très utilisée, hein. Tous les jeunes le disent.
Elle
hein.
est très utilisée au point qu'elle est rentrée dans le Petit Robert il y a 2 ans.
Alors, il y a aussi des expressions hein, qui sont construites sur des abréviations. Je pense, par exemple, il y a ASKIP.
ASKIP pour ASKIP pour... paraît.
Exactement. Mmh. Déso.
Pour désolé.
Et il y a R pour dire il n'y a rien.
Il n'y a rien.
On se sent en PLS pour dire qu'on ne se sent pas bien, mais on peut aussi mettre quelqu'un en PLS hein, pour dire qu'on l'humilie.
Ouais, qu'on l'humilie, qu'on le tue. Là encore, on peut utiliser l'exagération.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand on est en PLS ? On est au bout du rouleau, hein. On est dans le mal, comme diraient les jeunes.
On a entendu ne plus avoir de jus aussi. Je n'ai plus de jus.
On est arraché. Toujours dans la demi-mesure. Hein.
Oui.
On est lessivé, on est raide mort même.
Tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de synonymes parce qu'on a souvent l'occasion d'être fatigué,
d'être au bout de sa vie.
D'être
sur les rotules. En Allemagne, on siffle depuis le dernier trou, quand en Angleterre et en Roumanie, on est au bout de la corde. Ça me fait penser un petit peu à l'expression française quand on dit qu'on a trop tiré sur la corde, qu'on a trop exagéré. Effectivement, on peut être en PLS quand on a trop tiré sur la corde. Hein.
Oui, là, ça sous-entend qu'on a fait une action, que c'est notre faute. Souvent, on est en PLS par l'action de quelque chose d'autre aussi.
En Tunisie, on dit que l'échelle est tombée ou qu'on roule sur la jante. Quand en Côte d'Ivoire, on dit « je suis fait ». Pour dire que je suis fatiguée. Merci Géraldine Moinard pour
merci,
vos
merci.
Explications. Grâce à vous, on a repris du poil de la bête. Une expression sur laquelle nous reviendrons peut-être plus tard, dans une prochaine puce. À très bientôt Géraldine.
À bientôt.
Merci Lucie, merci Yannick Jolin. On va donc reprendre le programme, la tournée mondiale en Aquitaine et dans les Pays de Loire. C'est du 5 au 24 juillet. Et le Nombril du Monde à Pougny-Hirson du 15 au 17 août. Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Laura Pinto. À demain.